d'Alexis Morel. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Sera-t-il loquace ou silencieux ? Salah Abdeslam doit être interrogé pour la dernière fois aujourd'hui au procès du 13 novembre 2015. La cour veut en savoir plus sur sa fuite après les attentats. Explication dès le début de ce journal. À 11 jours du second tour, quelle place pour Édouard Philippe dans le grand mouvement politique voulu par Emmanuel Macron ? Vous l'entendrez, le président candidat et son ex-premier ministre ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Dans ce journal aussi, reportage au cœur du Donbass, désormais cible prioritaire des Russes en Ukraine. L'inquiétude des restaurateurs, il va bientôt falloir rembourser les PGE. Et puis nous foulerons ensemble un tout nouveau sentier de grande randonnée.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes, c'est aujourd'hui le réalisateur Thierry Demézières et le professeur d'EPS David Berillon pour le documentaire Allons enfants en salle aujourd'hui. C'est pour lui, Alexis, la dernière occasion de s'exprimer sur les faits.
Depuis le début du procès des attentats du 13 novembre, il y a 7 mois, Salah Abdeslam a d'abord beaucoup parlé, n'hésitant pas à provoquer la cour d'assises spéciale, avant plus récemment de faire valoir son droit au silence lors de certaines audiences. Alors quelle attitude va-t-il adopter cet après-midi pour son tout dernier interrogatoire ? Il sera question de sa fuite vers la Belgique quelques heures après les attaques, quand 2 amis sont venus le récupérer. 2 amis qui ont raconté hier cette exfiltration, Charlotte Piret.
Le 13 novembre, l'attaque du Bataclan est toujours en cours quand Salah Abdeslam appelle Mohamed Amri. En pleurs, raconte celui-ci. Je l'avais jamais entendu pleurer avant. Alors, Mohamed Amri accepte, avec un autre copain de Molenbeek, de venir le chercher à Paris. En arrivant aux alentours de 5h du matin, les deux hommes le voient sortir de nulle part, se débarrasser de sa grosse doudoune dans une poubelle. Et il nous a dit qu'il a fait partie des 10 personnes qui ont commis les attentats. Salah Abdeslam est alors très agité. Il pleurait, il criait. Il évoque encore sa ceinture explosive abandonnée peu avant, ce café dans lequel il a renoncé à se faire exploser. Puis les 3 hommes prennent la route vers Bruxelles et se font contrôler à 3 reprises. À l'approche d'un des barrages, Salah Abdeslam veut même échanger sa carte d'identité avec celle de son chauffeur. Finalement, seul le coffre de la voiture sera contrôlé. Arrivé à Bruxelles, l'autre accompagnateur de Salah Abdeslam se souvient: je lui ai payé le coiffeur, des vêtements, jeans, veste, bonnet. Ils ne reverront plus Salah Abdeslam jusqu'à ce procès. Dès le premier jour ici, il m'a demandé pardon, confie Mohamed Amri dans le box, parce que si je suis là, c'est à cause de lui.
Charlotte Piret au procès des attentats de novembre 2015.
Il est 7h32, jamais la Maison Blanche n'avait osé prononcer le mot jusque-là.
Pour la première fois, Joe Biden accuse Vladimir Poutine de génocide en Ukraine. Pour le président américain, il est de plus en plus clair que Poutine essaye d'effacer l'idée même de pouvoir être un Ukrainien. L'Ukraine qui annonce l'arrestation d'un oligarque local proche du président russe, Viktor Medvedchuk, était en fuite depuis le début de la guerre. Le président Zelensky propose maintenant à Moscou de l'échanger contre des Ukrainiens retenus en captivité sur le sol russe. Dans l'est du pays, le Donbass se prépare à une offensive russe imminente, même si dans cette région, contrairement au reste du pays, les habitants sont habitués aux tensions déjà depuis 2014, prises en étau entre séparatistes pro-russes et armées ukrainiennes. Comme dans la petite ville de New York, aucun rapport bien sûr avec la mégalopole américaine. New York donc, où se sont rendus Omar Waman et Gilles Gallinaro pour Inter.
La ligne de front est à 2 km à peine de New York.
Do you hear?
Vous entendez?
Do you hear?
C'est presque tout le temps comme ça.
Svetlana compte rester à New York. Elle ne veut pas abandonner sa belle-mère très âgée qui dépend uniquement d'elle.
We are accustomed.
Nous sommes habitués, mais nous sommes aussi à bout de nerfs.
We are nervous.
Nous sommes épuisés.
Exhausted.
What's your name?
Sergei.
Mais d'autres comme Sergei, 29 ans, cherchent désespérément à quitter la ville.
On ne peut pas fuir car le bus est en panne.
Vous comprenez les gens qui veulent rester?
Non. Ils devraient quitter la ville pour laisser notre armée faire son travail et combattre ces animaux qui pourraient utiliser la population comme bouclier humain.
Un sentiment qui n'est pas partagé par tout le monde ici. Lubov, une 60aine d'années, rentre chez elle après avoir fait quelques courses. Elle ne craint pas l'offensive russe qui se prépare. Il y a même de la nostalgie dans ses propos.
Je suis née en Union soviétique. J'ai vécu dans un pays extraordinaire, un pays magnifique.
Cette petite ville du Donbass symbolise à elle seule le conflit entre Kiev et Moscou. En grande partie russophone et russophile, elle reste attachée à l'unité de l'Ukraine.
Omar Waman et Gilles Gallinaro, envoyés spéciaux dans l'est de l'Ukraine. Curieux meeting de campagne hier soir pour Emmanuel Macron à Strasbourg. Face à lui, plusieurs milliers de partisans, mais aussi des opposants qui ont vivement interpellé le président candidat sur l'ISF ou encore le climat. On y revient dans le journal de 8h. Emmanuel Macron qui peut compter sur son ex-premier ministre pour l'aider dans cet entre-deux-tours. Édouard Philippe est notre invité ce matin à 8h20. Demain, il accueillera le candidat dans sa ville du Havre. Car au-delà de la présidentielle, l'ex-locataire de Matignon compte peser en vue des législatives, même si ses projets ne collent pas forcément avec le grand mouvement politique voulu par Emmanuel Macron, Yael Gauze.
Jusqu'au 24 avril, il n'a qu'un seul agenda, tout donné pour faire réélire celui qu'il a nommé à Matignon en 2017.
Parce que la France, elle ne sera pas la même si elle est présidée demain par Madame Le Pen ou si elle continue à être présidée par le président de la République.
Vidéo postée dès dimanche soir sur son compte Twitter. Édouard Philippe, mobilisé comme jamais, disent ses proches, mais qui n'arrive toujours pas à convaincre de sa totale loyauté. Son parti Horizon apparaît comme un obstacle sur la route du parti unique annoncé par le président. L'espace du centre droit, c'est Macron et c'est lui seul, persifle un ministre issu des LR. On n'a pas besoin d'une autre formation à côté. Et c'est vrai qu'il y a embouteillage côté droit. Jean-Louis Borloo et maintenant Nicolas Sarkozy. Quelle est aujourd'hui la valeur ajoutée d'Édouard Philippe? Et à quoi bon passer par Horizon pour les futurs ralliés? Édouard, tu as choisi de faire ton écurie, tu finiras palefrenier, lui a dit récemment un très proche d'Emmanuel Macron. D'autant que la priorité, compte tenu du score de Jean-Luc Mélenchon, c'est désormais d'aller chasser à gauche. Or, Édouard Philippe plaidait à l'automne pour une retraite à 67 ans et au Havre, c'est le candidat insoumis qui est arrivé en tête.
Durant ce quinquennat, Emmanuel Macron a mené une politique extrêmement dure à l'égard des plus modestes, selon Marine Le Pen, invitée hier soir de TF1. La candidate RN qui ne veut pas cette fois rater le grand débat d'entre-deux-tours, ce sera mercredi prochain. Alors elle compte se mettre au vert pendant 2 jours à partir de lundi pour préparer cette confrontation. Du côté des grands perdants du premier tour, Anne Hidalgo va devoir, elle, gérer le retour à la mairie de Paris. Et ce ne sera pas forcément simple pour la socialiste qui, dans sa ville, a fait à peine mieux qu'au niveau national. 2%, 23 000 voix seulement. Alors Antoine Gignot, est-ce maintenant un chemin de croix qui l'attend jusqu'à la fin de son mandat?
Les premiers à l'attaquer, sans surprise, ce sont les élus Les Républicains. Rachida Dati en tête, qui met en avant le score d'1,75% d'Anne Hidalgo.
C'est ce qu'elle vaut aujourd'hui, c'est-à-dire une insatisfaction phénoménale. Enfin, l'heure de vérité. C'est la première fois de sa vie politique où elle est confrontée aux urnes sur son nom. Parce que comme vous le savez, Paris, c'est une élection indirecte. Vous votez pour votre maire d'arrondissement. Elle a été élue grâce à un attelage. Et donc, des Parisiens qui vous ont donné à peine 2%, ça vous donne un problème de légitimité d'action.
Mais au-delà de ce manque de légitimité que compte invoquer la droite pour s'attaquer aux zones sans voiture ou aux nouvelles constructions, Anne Hidalgo risque aussi de devoir composer avec un changement au sein des élus écologistes comme Alice Coffin.
Les résultats à Paris, qui voit Jean-Luc Mélenchon arriver haut, vont inciter à ce que les alliances soient faites en priorité entre Europe Écologie et la France Insoumise. Il y a un énorme besoin d'un projet plus radicalement social.
Pour l'instant, le projet, c'est surtout de retourner vers les Parisiens et de préparer les Jeux Olympiques, glisse une proche d'Anne Hidalgo qui ne voit pas de menace à l'horizon. La maire de Paris, elle, va prendre quelques jours de vacances avant de revenir aux commandes de l'hôtel de ville.
Antoine Gignot est en pleine campagne d'entre-deux-tours. Voilà un potentiel foyer de mécontentement sensible pour l'exécutif. C'est dans les prochaines semaines que doit commencer le remboursement des PGE, les prêts garantis par l'État pendant la crise Covid. Beaucoup de restaurateurs notamment en ont souscrit pour compenser la fermeture de leurs établissements. Le remboursement a déjà été décalé d'un an, mais cette fois pas de nouveau délai prévu, ce qui inquiète de nombreux professionnels, Elia Bergel.
David Zenouda a emprunté un demi-million d'euros via le PGE pour ses 7 établissements à Paris et en Bretagne, des restaurants, des bars à vin. Cela représente 10% de son chiffre d'affaires annuel.
C'est une épée de Damoclès pour l'ensemble de